France Inter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Maurice Genevoix, 1890-1980.
Il y a 50 ans, sur ce terrain où, comme l'atteste Soissons, Reims, Château-Thierry, Villers-Cotterêts, la France, après tant de pertes pleurées et de périls mortels courus, a de nouveau rencontré la fortune des armes, glorieuse et familière compagne, qui était déjà présente à son berceau.
C'était en juillet 1968, Maurice Genevoix accompagnait de Gaulle en vieux pays capétien pour célébrer la seconde victoire de la Marne. Les deux hommes se tenaient au pied d'un monument, hors du commun. 8 hommes y figurent, tous ceux de 14, 8 hommes de 8 mètres de haut, les yeux clos, morts. Ce jour-là, le général de Gaulle évoqua la France. Genevoix lui succéda. « mes camarades, c'est pour vous tous que je parle. » Puis, il tenta de glisser la main des jeunes hommes morts de la Grande Guerre dans la main des jeunes gens de 68. Un pays est fait de ses morts et de ses vivants, et aussi bien, même mieux, de ses paysages anciens que de son urbanisme moderne. Il y a toujours des professeurs des écoles qui tentent de faire imaginer aux enfants du 21e le temps où les maisons avaient des persiennes en bois que le soir on fermait sur les rêves en écartant les haies de glycine. Ces instituteurs-là tirent leur dictée de la dernière Harde, de Rabolio, de la boîte à pêche, et ils terminent toujours ainsi. Tant de générations de Français ont entendu cette formule. Point final, Maurice, je ne vois. Bonjour Michel Bernard.
Bonjour.
Pas de point final pour vous en ce qui concerne Genevoix. Vous publiez aux éditions de la Table Ronde pour Genevoix. C'est un auteur que vous avez pratiqué dès votre enfance.
À l'école. Puis ensuite, plus tard, en lisant ceux de 14.
Alors à l'école, on va commencer pour ceux qui avaient 10 ans en 1900, parmi eux le petit Maurice, et c'était, Michel Bernard, au cœur paisible de la France.
Géographiquement, c'est le Val de Loire, c'est-à-dire un fleuve, et puis au nord, la forêt, vous voyez, le fleuve, la forêt, et au sud, la Sologne. Alors ça vous situe, voilà.
Moi, j'habitais à la Croix-de-Pierre. Eh bien, là, c'était le quartier des Meuniers et en partie des Vignerons. De l'autre côté, il y avait un autre quartier du Port. Et le Port, c'était le quartier des pêcheurs qui vivaient du produit de leur pêche, alors que la Loire était très vive en faune. Mais il y avait également, dans ce même quartier, les anciens mariniers. La marine de Loire avait été prodigieusement active. Et moi, j'ai encore vu les dernières flûtes de Bourgogne ou les dernières rohanaises passer dans le Chevalier. Il y avait aussi ce qu'on appelait le bourg proprement dit, c'était celui des artisans et des marchandises. Il y avait encore à ce moment-là une différenciation qui rappelait quelque chose de séculaire.
Une petite ville d'avant 14, vous dites, Michel Bernard, une villette, c'est un miracle d'équilibre.
Oui, c'est ce qu'on entend décrit par Maurice Genevoix. Une petite ville, un gros bourg, où il n'y a pas de chômage, où tout le monde a une activité, et surtout un métier, où tout le monde sait faire quelque chose de ses mains. Et sait le faire savoir et l'enseigner. Une sorte d'ordre multiséculaire, perfectionné, complexe, mais qui, dans le souvenir de Maurice Genevoix, est heureux. Et il dit, Maurice Genevoix, que ce n'est pas seulement dans son souvenir, il constate que cet équilibre était sans doute meilleur que celui qu'il connaissait au moment où il écrivait ses lignes, dans les années 60.
Chacun produit de la richesse augmentée. Ce n'est pas du vocabulaire d'économiste. Chacun pense qu'on n'a rien fait si on ne l'a pas fait de son mieux.
C'est la morale une morale de province, effectivement, de ces bourgs de province, une morale de petits bourgeois, de paysans, de vignerons. Une morale du travail, et d'un travail soigné.
Alors, les terriens sont tous un peu amarinés, parce que la Loire est là. Les humains sont tous familiers des animaux. Chacun est sur les deux rives.
C'est, je crois que c'est Genevoix qui le dit, c'est la civilisation du pas du cheval. L'homme marche au pas du cheval. L'animal n'est pas seulement de compagnie ou de consommation, il est un camarade de travail.
Je plains les petits-enfants qui n'ont pas vu un maître artisan travailler, ni un cheval marcher au pas. Alors, les petits bourgeois comme lui, ses parents, son père, sa mère meurt jeune, son père tient une quincaillerie en gros, ils ne sont pas nécessairement prospères, mais ils ont des espérances. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'une promotion.
Ils ont des espérances pour leurs enfants, qu'ils éduquent du mieux possible pour qu'ils deviennent ce que eux ne sont pas, professeurs, médecins, sous-préfets. Bref, qu'ils s'élèvent dans la hiérarchie sociale.
On peut dire quand même que vous êtes sous-préfet, on ne dira pas où, et on ne dira pas si vous êtes en exercice. Michel Bernard, c'est pour ça que vous parcourez le corps de la France. C'est le titre d'un livre précédent que vous avez publié aux éditions de la Table Ronde. Oui, on a des espérances, mais quand on a 10 ans en 1900, ça veut dire qu'on en a 20 en 1910. Donc là, en 1910,
Il prépare le concours d'entrée à l'école normale supérieure.
Il va le réussir brillamment, il sera major de sa promotion. Sauf qu'en 1914, on a 24 ans. Et que les grandes vacances, formidables, les grandes vacances de la Troisième République, sont interrompues. Genevoix est mobilisé, il monte au sommet du clocher de Châteauneuf-sur-Loire, contemple le paysage alentour qui va basculer.
Nous abandonnions un monde qui avait ses, non pas ses tabous, mais ses croyances, ses fois, ses critères, qui étaient bâtis sur tout un ensemble de réalités sociales et morales. Du jour au lendemain, tout cela avait basculé et était remis en question. Je crois que, en définitive, pour ceux qui ont traversé ces épreuves, je me rappelle tel ancien combattant disant « Celui qui n'a pas compris avec sa chair, celui-là ne peut en parler ». C'est intransmissible. Et malheureusement, sans quoi il n'y aurait, je crois, plus jamais de guerre. Nous, à 30 ans, quand nous nous retournions, nous ne voyions plus que des fantômes et des morts.
Après le clocher tranquille de Châteauneuf-sur-Loire, c'est à l'automne le clocher de Rambercourt au Pau, j'insiste parce que c'est votre région d'enfance. Oui. Michel Bernard, sur les côtes de Meuse, l'extrémité de la bataille de la Marne, éclairée par l'embrasement des combats.
Oui, je trouve là, au début du mois de septembre 1914, c'est la fin de la bataille de la Marne. Les Allemands sont repoussés du côté de Château-Thierry et Marais de Saint-Gond, et ils tentent un ultime effort sur l'est du front. Ils veulent couper la route entre Bar-le-Duc et Verdun et isoler la place forte de Verdun. Et pour ça, ils attaquent de nuit un endroit qui s'appelle la Vaumarie, au-dessus de Rambercourt au Pau. Par surprise, il tue les soldats, les chasseurs qui se trouvent dans les lignes devant Maurice Genevoix, devant l'unité de la section de Maurice Genevoix qui est sous-lieutenant, et il déferle sur la tranchée dans laquelle Maurice Genevoix et ses hommes se trouvent. Lorsqu'ils arrivent sur Maurice Genevoix, ils sont à une trentaine de mètres, il aperçoit les pointes des casques dans un orage, une nuit terrible, il pleut. Des éclairs zèbrent le ciel, et dans un de ces éclairs, il voit les pointes des casques s'agiter, une masse considérable d'Allemands se précipiter vers sa tranchée. Il donne l'ordre de tirer et de se replier immédiatement à travers une haie d'épines.
Il lui est arrivé de tirer, lui.
Oui,
j'ai tiré sur trois fantassins allemands. À chacun, j'ai tiré une balle de revolver dans la tête ou dans le dos.
Oui, une des choses les plus douloureuses qu'il ait vécues, c'est d'avoir effectivement tué des hommes, des soldats allemands dans le dos. Au moment où ils se replient, ils sont submergés par les fantassins allemands, des Wurtembourgeois, qui hurlent « Vorwärts, Vorwärts », qui sont pour beaucoup d'entre eux sous. Et il est mêlé à cette horde avec ses hommes, il est isolé. Il a le réflexe de ramasser un casque à pointe, il enlève son képi, il le met sur la tête pour se confondre avec les Allemands. Et là, il remonte petit à petit des soldats allemands. Et chaque fois qu'il en remonte un, il l'abat.
C'est un chef qui avait le sens de l'engagement, qui physiquement était une boule de nerfs, qui protégeait ces hommes qu'il appelait « mes camarades ». Oui. Souvenons-vous les discours de 68, « mes camarades, mes camarades ».
Mes camarades, c'est semblable, des hommes. et les Français. Oui, il était complètement... C'était un conscrit. Lui était sous-lieutenant. Il avait été aspirant pendant son service militaire. Il était normalien, premier d'ailleurs à l'école normale supérieure. Et il avait, dès le début de la guerre, le souci de protéger ses hommes, c'est-à-dire d'épargner leur vie et d'épargner sa propre vie. Peggy est mort à peu près au moment de la bataille de la Marne, hein, le 6 septembre. Peggy est mort debout, à la tête de ses hommes. Il est mort d'une balle dans le front. Genevoix, au même moment, dans la même position, en ligne de combat, il est couché derrière son sac, parmi ses hommes. Et il regarde ses hommes, et ses hommes le regardent. Il est couché derrière son sac parce que ses hommes ont besoin de lui. Ils ont besoin de lui vivant pour les guider, pour les soutenir, pour leur dire ce qu'il faut faire et pour les protéger. Et effectivement, il les protège. Il les fait passer à travers bois, leur fait faire des tours pour passer dans des chemins creux de manière à être évité par les tirs. Et effectivement, dans son régiment, c'est sa section, la section de Maurice Genevoix, qui perd le moins d'hommes. Il en perd malgré tout une vingtaine.
Enfin, quand il revient, le capitaine ou le commandant s'interroge pourquoi si peu d'hommes, et Genevoix défend sa position. Pardonnez-moi, monsieur le sous-préfet, mais enfin, premier normalien ou bien dernier au certificat d'études, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le caporal Sicot, le sous-lieutenant Porchon, enfin, ses proches, ses amis, ces hommes qui ne sont pas ses amis, ce sont tous des frères. Et si on ne garde pas une parole d'amour ou un geste de fidélité à leur égard, on n'est rien.
Oui, là, c'était chez lui une espalade de guerre qui lui a fait découvrir ça. Dans son village, dans son bourg, le forgeron, l'employé de son père qui tenait un magasin, participait de la même communauté. Pour lui, ces hommes étaient ses semblables. Et premier, effectivement, à normale supérieure, c'est de sa comté à l'école normale supérieure, mais dans la tranchée, il n'y avait effectivement que des hommes. Les uns courageux, d'autres moins courageux, lui à leur tête, chargé d'exécuter une mission.
Alors, ne faisons plus de hiérarchie entre ceux de 14, faisons-en entre ceux qui ont écrit sur ceux de 14. Les éparges, le premier livre de Genevoix est connu, mais c'est Le Feu de Barbus qui a reçu le prix Goncourt pendant la guerre.
Oui, on a parlé, le livre de Genevoix sous Verdun, le premier livre a été publié en 1916, en mai 1916. Il a été remarqué, Léon Blois en parle dans son journal, et on en a parlé pour le Goncourt. Mais c'est finalement Le Feu qui a été retenu. Pourquoi ? Parce que c'était un roman. Il est probable que dans le jury du Goncourt, on a dû faire observer, mais non, sous Verdun, ce n'est pas un roman, c'est un témoignage.
Et vous préférez le témoignage avec le mot juste ?
Bien entendu, bien entendu. Le témoignage, lui, avait été copieusement censuré. Sous Verdun était rempli de pages blanches, parce qu'on estimait, par exemple, ça, d'avoir tué des soldats allemands dans le dos, ça avait été supprimé de l'édition en 1916.
Et Le Feu avait peut-être été moins censuré. Vous n'aimez pas beaucoup Le Feu, allez, avouez-le, parce que vous dites que les mots sont du côté des idéologies plus que du côté des morts.
Oui, Barbus veut démontrer quelque chose. Il a des convictions respectables et il veut démontrer, il fait de son roman l'illustration de ses convictions. Il est communiste, il est pacifiste. Et donc le roman sert à démontrer et à étayer sa position. Genevoix n'a pas un point de vue sur la guerre. Il dit ce qu'il a vu, il dit ce qu'il a senti.
Et puis il y a quand même aussi, dans la mémoire collective, Les Croix de Bois, adaptation au cinéma 1932.
Tu sais, j'ai tout expliqué. Comment on vivait dans la tranchée, sous la pluie, dans la boue, puis même les vacheries de Morache. Puis j'ai raconté aussi la dernière attaque, le village qu'on a pris. Ça les a beaucoup intéressés. Seulement, ils sont pas encore.
Eh ben, il est tout de même pas tombé loin.
Les Boches sont loin.
On sait plus.
Il y a 4 jours qu'on attaque, il faut qu'on contre-attaque.
Bouffiot, c'est ton tour.
Moi ? Je vois presque pas clair. Je peux pas être guetteur.
Ah, ça va bien, mon vieux, ça va. Tu es désigné, allez.
Mais qu'est-ce que je te dis que j'y vois rien ?
Tu penses même pas que je vais aller t'acheter une paire de lunettes, non ? Allez, vieux, équipe-toi, là.
Mais caporal !
Oh ! Je suis mouché ! Ah, je suis blessé, les copains ! Vite,
on va falloir te couper le doigt. Non, je m'en fous, je suis pas pianiste.
Alors, c'est pas le texte originel de Dorgelès, c'est l'adaptation de Raymond Bernard. Vous l'aimez pas, hein ?
C'est évidemment ridicule. Quand les hommes sont touchés, Genevoix le raconte. et ils disent « Merde !» C'est tout.
Alors, le mot juste, la blessure, c'est difficile à supporter. On a entendu une blessure traitée de manière plus que chevaleresque dans le film de Raymond Bernard. Il est blessé en avril 1915, je le vois.
Il est blessé, et il dit merde d'ailleurs, bon, il est blessé. Il est blessé de 2 balles dans le bras qui lui coupent à 2 endroits l'artère humérale et une balle dans l'épaule tout près du cœur.
Sur la recommandation du secrétaire général de Normale Supérieure, on n'en parlera plus de Normale Supérieure, il écrit aussitôt, c'est la publication des Éparges, le premier d'un ensemble de 5 livres sur la Grande Guerre, ceux de 14.
Je me rappelle à la lisière des bois de Cessarge. C'est la première fois que j'ai entendu les cris des blessés. Eh bien, aux voix d'hommes, plaintives, gémissantes ou furieuses, se mêlait dans le lointain le hennissement d'un cheval qui mourait. Et ce hennissement aigu, j'ai d'abord cru que c'était un oiseau de nuit qui ululait. Eh bien, je ne peux pas penser aux cris des blessés dans la nuit sans entendre encore ce hennissement aigu, poignant, qui montait sous les étoiles devant la misère et la méchanceté des hommes.
Je vais chanter le bois fameux où chaque soir dans l'air brumeux rôde le boche venimeux à l'œil de traître. Où nos poilus au cœur altier contre ce bandit de métier se sont battus sans lâcher pied. Le bois le prêtre. On est terré comme un renard, on est tiré comme un canard. Si l'on sort, gare au traquenard où l'on s'empêtre. Dès que l'on quitte son bourbier, on reçoit un lingot d'acier, car l'on est chasseur et gibier. Au bois le prêtre.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Michel Bernard qui publie à la table ronde pour Genevois, lassé des nationalistes patriotards comme des pacifistes. On entendait des couplets d'Aristide Bruand chantés par Éric Amado, mais pas lassé des animaux ni de la nature. Après la mort de Prêt, il va vivre au plus près de la nature et des animaux, après la guerre, le retour à la Loire, après l'engagement, la distance.
Oui, après la guerre, il envisageait avant la guerre de faire une carrière d'universitaire, il était préparé à ça, à l'étranger. Il était très attiré par les voyages. La blessure, très grave, il a failli perdre le bras, il est resté avec un bras inerte, mutilé, réformé à 100%. Il a eu une forme de dépression. Ce qui lui était le plus pénible, après sa blessure, c'est l'arrachement de ses camarades. Il avait vécu une relation fusionnelle avec les hommes qui étaient avec lui dans les tranchées, avec les autres officiers, avec ses hommes à lui, avec les soldats. Et le retrait du front a été vécu par lui comme un arrachement très douloureux. Et sans doute, s'il a écrit ceux de 14, c'est au fond pour revenir avec eux, revivre les hommes qui étaient morts autour de lui et rester avec ceux qui étaient restés là-bas. Et donc, il a cette forme de dépression après la guerre. D'abord, il a beaucoup souffert de sa blessure et il renonce à cette carrière universitaire. Il se rend compte de son talent d'écrivain en publiant ses souvenirs de guerre et il décide d'être écrivain, effectivement, et de vivre de sa plume, pauvrement au début.
Il se sert avec ses souvenirs, le souvenir des hommes morts, SE2RE, avec sa jeunesse. Il se sert, SE2RE, avec son enfance. Il achète une maison, il est pauvre à ses débuts, mais voilà qu'en 1925, il reçoit le Goncourt, ce qui va lui permettre d'acquérir la maison où vit toujours sa fille, les Vernelles, non loin de Châteauneuf-sur-Loire et de la forêt des braconniers.
Monsieur le comte, avec votre permission, j'aurai 2 mots à vous causer.
Ça, par exemple, c'est un peu raide.
On m'a sali. On a dit que j'avais volé vos faisans au parquet. C'est des menteries. Et les menteurs. L'homme qui a volé vos faisans, c'est voilà. Vous ne me croyez pas? Je m'en doutais. Je braconne, c'est la vérité. Mais, comme tout cela au pays, qui n'ont pour eux que la chasse des autres, comme les valets de ferme, les bûcherons, les charretiers, comme tout le monde. Pendant qu'on était à la guerre, il y a des femmes qui l'ont fait, monsieur, qui allaient au falot la nuit.
Et je le sais, raison de cul pour nous défendre. Mettez-vous un peu à ma place.
Je voudrais bien.
Allez, filez, filez, je ne vous ai pas vu. Qu'attendez-vous pour déguerpir ?
Adaptation pour la télévision 72, Jean-Marie Coldefuy et Jean-Louis Bory, qui était un ami de Genevoix. Bah, il aime bien le braconnier, il déteste pas le comte.
Non, il s'intéresse peu aux catégories. Il s'intéresse aux hommes, à ce qu'ils sont, à leur réalité. Peu importe leur statut, à ses yeux, seul compte leurs paroles et leurs gestes.
Alors, il a beaucoup d'interlocuteurs, d'intercesseurs dans le pays, le long des rives de la Loire, qu'il arpente avec sa boîte à pêche. Grand succès encore aujourd'hui, la boîte à pêche. Et puis, à la lisière des bois. Ainsi, M. Brou. Alors, c'est une conversation restituée par la télévision française dans les années 1960, quand Genevoix y paraissait souvent.
Dites-vous que ce Brou était valet de chien, c'est-à-dire qu'il était au plus bas degré de la hiérarchie d'un équipage de vénerie.
Oui.
Mais il appartenait à cette race d'hommes, enfin si rare, capable d'amener un oiseau sauvage à couver dans leurs mains. À force d'humilité, à force d'amour, il n'est pas possible d'arriver à un tel résultat sans avoir rencontré en chemin de très émouvants secrets sur le monde, sur la nature, sur la vie, sur la destinée.
Et bonjour, Brou.
Bonjour, monsieur Genevoix.
Tu te fais rare, dis donc, ces temps-ci.
C'est vrai qu'on ne m'a guère vu ces temps-ci entre Sèchebrière et Morches. Où c'est qu'il était, Brou?
Je le saurai quand tu me l'auras dit.
Vous voulez pas des cèpes des fois? J'en ai des beaux. Et pas chers. Et j'ai aussi des guernouilles. Ouais. Voulez-vous les tis?
D'accord aussi pour les grenouilles. Mais c'est tout.
Chut. Vous voulez y voir les sangliers? Allez, suivez-moi. Mais. Motus, hein?
Bon, c'est un peu mis en scène, Michel Bernard. En même temps, il y a l'accent.
C'est le vrai des choses.
Vous appelez l'ancienne France.
C'est le vrai des choses. Ce qui intéresse Genevoix, c'est la vie elle-même. L'endroit du monde où nous sommes le moins séparés de la chose elle-même, de la vie elle-même, du secret, du mystère de la vie elle-même. Et il a le sentiment, il est persuadé, il est sûr que les hommes des bois, les hommes qui s'occupent des bêtes, à cause de cette proximité avec une autre forme de vie que la vie humaine, sont l'endroit de l'humanité où l'écart est le plus réduit entre les hommes et les choses. C'est ça qui l'intéresse. Il y a le miracle de Genevoix, c'est qu'il est un intellectuel de très grand niveau, un très grand écrivain, et que lui est tout près, comme le braconnier, comme le pêcheur de la Loire, tout près de la réalité des choses. Et il a su le transformer en mots.
D'où l'épouvantable surprise de 1940, cauchemar dans le cauchemar. Dans votre précédent livre, Le corps de la France, vous imaginez ce qui est survenu quand a sonné le tocsin pour Henri Calais, pour Saint-Exupéry, pour Léon Werth. Et Genevoix, il est déjà présent dans ce précédent livre.
Et oui, il a été très. C'est un homme extrêmement pudique. Il a raconté sa guerre telle qu'il l'avait vue. Mais c'était un homme extrêmement pudique. Il en parlait très peu d'ailleurs de la guerre, sauf pour la télévision, parce qu'il fallait transmettre ce qu'on pouvait transmettre. Et on ne sait pas très bien comment il a vécu 40 ans. Il a un journal particulier auquel j'ai eu accès, où il raconte la période de l'occupation. Il est sans ambiguïté là-dessus, hein, sur sa condamnation du régime de Vichy, sur la compromission avec l'occupant. Il déteste ça. Mais j'ai imaginé le choc qu'a pu être pour lui l'arrivée des Allemands sur la Loire, d'avoir vu des centaines d'hommes mourir près de lui, aux Éparges, dans les côtes de Meuse. Et puis 20 ans après ces sacrifices immenses, voir les hommes avec les uniformes de même couleur que ceux qu'il avait arrêtés sur la Meuse, arriver sur la Loire, et puis 2 ans après se trouver à Marseille, dans l'Aude, ça a été pour lui, comme pour des milliers d'anciens combattants de la Grande Guerre, une catastrophe dans la catastrophe.
La résurrection, cependant, spectacle rare, dites-vous, que celui de la résurrection d'une nation. On va, dans notre course, franchir les haies de la fin plus rapidement, les haies des honneurs. 46, élection à l'Académie française. Il y a beaucoup de sièges vacants. L'Académie n'avait élu personne pendant l'occupation et devait procéder à son épuration. 1958, il y a toujours les Vernelles, mais voici qu'il peut occuper le grand appartement du secrétaire perpétuel de l'Académie française. Il est élu en 58 à ce poste. Ce n'est pas une affaire légère, parce qu'il faut enterrer les morts de la compagnie avant d'assurer le renouvellement. En témoigne le film « Les grandes familles » d'après Maurice Druon et Denis de la Patellière.
Et maintenant, voici sa gloire, le grand poète catholique Jean de la Monnerie.
grand officier de la Légion d'honneur, membre de l'Académie française, pieusement décédé le 15 mai 1958, muni des sacrements de l'Église et de la bénédiction de sa sainteté, le pape Pie XII. C'est lui dont on célèbre ce matin en l'église Saint-Honoré des Laux les funérailles officielles.
Fallait-il qu'en ces heures où le crime et la violence submergent le monde, fallait-il qu'un poète rendît son âme à Dieu? Ah, nouvelle funeste!
Excusez-moi, j'avais des rendez-vous d'affaires.
Il aurait pu au moins se mettre en
vie.
J'oublie sans doute que Jean est là.
Académicien,
s'il n'y était pas, je ne vois pas très bien ce qu'on ferait ici.
Orphée, Jean de la Monnerie est aujourd'hui triomphant. Mon cœur sonne avec vous. Cloche de France, cloche de Dieu.
Bon, alors vous allez me dire, parce que vous ne dédaignez pas l'uniforme, que l'Académie française est un service.
C'est un service, je crois qu'il a effectivement assumé une mission de service public de 46 jusqu'à sa mort, au service de la langue française.
Enfin, il a démissionné du poste de perpétuel, il y en a qui s'accrochent souvent
à leur fauteuil. À 80 ans, il a estimé qu'il lui restait encore quelques années à vivre, il voulait les consacrer à lui-même.
Et aux mots de France, parce que c'est la tâche de l'Académie, évidemment, d'établir le dictionnaire, les mots de France, il les restitue encore mieux au-delà du dictionnaire. Dans leur infinie variété, je plains les enfants, disait François Mauriac, qui ne sauront pas les mots des artisans, les noms des oiseaux, les noms des fleurs.
Oui, il a été pénétré effectivement lui aussi par cette idée. Et lui, il les connaissait tous. Ce qui me paraissait miraculeux dans la lecture de Maurice Genevoix, c'est sa capacité à nommer les choses dans leur immense diversité, avec le plus grand naturel. Nous utilisons un très, très petit nombre de mots pour désigner les choses, nous, dans la vie courante et même dans notre écriture. Chez Genevoix, la palette est immense.
Comme chez Colette.
Oui.
C'est le même genre d'écrivain.
Oui, c'est de la même famille. Oui.
Colette, membre de l'Académie royale de Belgique. Alors, il meurt beaucoup plus simplement que le poète catholique académicien qui figurait tout à l'heure au palmarès des grandes familles avec un Arsène Lupin à la main dans la maison d'Espagne où il passait les étés pour avoir vu la mort de près, pour rééditer la mort de près à la table ronde, pour avoir touché jeune le passage, la mort cesse d'être effrayante.
Oui, il l'a dit, il l'a vu, j'ai vu à 24 ans, j'ai vu que les hommes qui mouraient, les agonisants, au moment où ils touchaient le bord de la mort, était entré dans une étrange sérénité, une véritable sérénité. Et moi-même, lorsque j'étais grièvement blessé et que j'ai eu le sentiment de basculer de l'autre côté, j'étais pris moi-même d'une très grande sérénité alors que tout s'agitait autour de moi.
Le 2 août 2014, qu'est-ce que vous ferez, Michel Bernard? Peut-être Genevoix sera-t-il au Panthéon?
Le 2 août 2014, je serai sur la tombe de mon ancêtre, Jean Bernard, qui est enterré au cimetière de Montdidier et qui a été tué près de Roye le 12 août 1918.
Peut-être Genevoix, pas en 14, en 2018, sera-t-il dans la Pléiade?
Ça me paraîtrait une excellente chose. Ce serait une manière de faire ce qui est le grand projet de notre pays et ce qu'est notre langue, que la langue des écrivains soit aussi celle du peuple, de tout le peuple de France, de tous ceux qui parlent le français. Notre langue a été forgée par les écrivains. Les écrivains ont pour mission de s'adresser à tous. Et c'est ce que Genevoix a toujours pensé, c'est ce qu'il a voulu faire. Son témoignage sur la Grande Guerre, ses livres sur la nature, c'est pour tous, de l'agrégé de grammaire.
Au premier plus normal supérieur, jusqu'au dernier du certificat d'études.
Jusqu'au dernier certificat d'études.
Merci Michel Bernard. Votre dernier livre à la table ronde pour Genevoix, la table ronde dans la petite bibliothèque Vermillon, réédite fort justement La mort de près. Et votre livre précédent, c'était en 2010 et c'est toujours neuf, Le corps de la France. L'émission a été réalisée par Marie Casanova avec à la technique Lédevine Caron. Et Florent Layani, la préparation, Meryl Moneghetti, Frédéric Martin et Franck Olivard. Il est 14h, vous écoutez France Inter.